Vous entrez dans les ateliers de la nuit. Faut-il faire confiance à ce que l'on entend ? Faut-il faire confiance à ces voix qui parlent dans le lointain, à tout ce qu'à travers les murs on perçoit ? Qu'est-ce que la vigilance auditive ? Nous pourrions, sans être espions, s'entendre révéler des choses par le son. Le son invisible, celui qui ne s'accompagne pas de l'image, qui passe à travers les murs. Privé de la vue, on peut reconstruire mentalement ce que les bruits, les voix proposent. On peut projeter un espace, une temporalité. On pourrait même s'imaginer une action, des corps, une intrigue, à partir de sons qui n'ont pas de décor. Comment savoir si un heurt est un bruit contre un mur, un battement de cœur ou une hallucination ? Comment savoir si une voix qui hausse le ton le fait dans la joie ou dans la douleur ? Le son sans l'image, au quotidien, derrière les murs, les portes, les fenêtres. Le son qui ne nous est pas directement adressé est source d'imagination, est un début d'histoire, une proposition. Si on va un peu plus loin, on pourrait presque parler d'hallucination auditive. Comment s'imagine-t-on le corps d'une personne inconnue dont on perçoit la voix ? Il suffit de tendre l'oreille pour inventer des histoires qui vont bien au-delà de la réalité. Chut, les murs ont des oreilles, par Hélène Laurent et Manouchak Fachaï.
Je sais toujours pas quoi lui offrir pour Noël. Il a déjà tout.
Il a plus besoin de rien.
Quoi ?
De tourner en rond, comme disant.
De descendre 13h, parabolique,
unité,
vieillard.
Chaque fois que je
vois
un vieillard,
je me dis toujours la même chose.
Une fois, c'était le petit bébé de quelqu'un.
Il y a eu la grève des journaux. 2 décembre, survie à 13h, Midi Paris, unité C, commune de nuit, 50.
Chut, les murs ont des oreilles. Un atelier d'Hélène Laurent et Manouchak Fachaï. Espion, taupe, agent secret. Mouchard, sycophante, indique, barbouze, plombier, cafard, ce moment de radio est pour vous. Et oui, chers auditeurs, au programme cette nuit, un voyage sonore inspiré d'une nouvelle du romancier italien Italo Calvino, Un roi à l'écoute. Un récit de voix et d'écho consacré à un seul de nos cinq sens, Louis. L'unique personnage est un roi. Italo Calvino ne nous raconte pas sa jeunesse, la politique qu'il mène, ses amours contrariés, ses parties de chasse ou ses somptueux banquets. Non, rien de tout cela car le roi passe son temps enfermé dans la salle du trône. Il entend, il écoute, il surveille, il épie les bruits qui lui parviennent à travers la muraille de son palais. Cette nuit, je vous propose une aventure tout à fait singulière. Espionner l'univers sonore du roi. Pas de l'extérieur, comme si nous étions dans la salle du trône nous aussi, mais de l'intérieur. Là où son univers sonore s'élabore, au plus profond de son être. Je vous invite à écouter ensemble la voix intérieure du roi. Celle qui dirige son attention, déchiffre et interprète tous les bruits. Allez-y, placez-vous tout au fond de l'oreille du roi. Fermez les yeux et abandonnez-vous à l'inquiétante voix intérieure. L'antenne est ouverte, le micro circule librement. Comment ça ? Vous n'avez jamais écouté, surveillé, espionné ? Mais chut, c'est parti. Le grand spectacle de l'écoute commence.
«
Alors voilà. Imaginez-vous que vous êtes le roi d'Italo Calvino. Un roi bien étrange. On ne sait pas vraiment quel est votre royaume, ni à quelle époque vous régnez. Vous imaginant entouré d'espions, terrorisé par l'idée d'un complot, vous n'osez quitter votre trône. En habits royaux, la couronne sur la tête et le sceptre dans la main droite, vous passez votre temps à écouter.
Sa Majesté.
Le trône, en somme. Ton intérêt est d'y rester bien assis, sans bouger, jour et nuit. Toute ta vie jusque-là n'avait été rien d'autre que l'attente de devenir roi. À présent, tu es roi. Les heures sont longues à passer dans la salle du trône. La lumière des lampes est toujours la même. Tu écoutes le temps qui passe. Le vent souffle dans les couloirs du palais. À moins que ce ne soit au fond de ton oreille.
Entendez-vous le ronflement du vent ? Vient-il du palais ou de votre imagination ? Je crois que le philosophe Peter Zandi a une petite idée sur cette question.
On peut écouter de toutes sortes de manières. On peut écouter par nos oreilles, bien sûr. C'est la situation la plus fréquente. Mais on connaît tous aussi des moments où les sons nous frappe non pas par les tympans, mais peut-être particulièrement dans le cas de son grave, qui nous frappe en quelque sorte par le sens du toucher. On peut sentir des sons qui nous heurtent le corps, qui nous font vibrer d'autres parties du corps, une oppression sur la poitrine, par exemple, dans le cas de son très, très fort et très grave. On connaît tous des écoutes purement intérieures. Quand nous lisons à voix basse, ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire, on a lu plutôt à voix haute, mais quand nous lisons aujourd'hui à voix basse, dans toutes sortes de situations, dans le métro, devant d'autres personnes, c'est vraiment une lecture muette, et pourtant on entend des voix. Ce qui, évidemment, nous conduit à penser que c'est l'imagination qui est en quelque sorte la grande, le grand metteur en scène de l'écoute intérieure. L'imagination peut produire des sons sans aucune résonance, sans que nos cordes vocales ne résonnent, sans que nos tympans ne vibrent. On se construit des scènes acoustiques. J'irais volontiers jusqu'à dire que écouter, c'est toujours, même si on écoute par ses oreilles, même si les sons qui nous frappent passent par les tympans, écouter, c'est toujours en même temps se construire une sorte de scène auditive. On se fait des scènes quand on écoute.
Est-ce que l'oreille peut nous apprendre sur son propriétaire ?
Il y a des tas de choses.
Ce qui est passionnant dans l'écoute, c'est qu'on ne sait jamais, finalement, quelle est la part d'intériorité et d'extériorité. D'ailleurs, il y a quelque chose même dans l'organe de l'écoute, dans ce tympan qui est une très fine membrane, c'est comme une feuille qui vibre entre intérieur et extérieur. Et donc, on ne sait jamais très bien d'où vient le son. Comment dire, c'est ce qu'il y a aussi souvent de menaçant dans l'écoute, c'est-à-dire l'écoute vient évidemment en partie de l'extérieur, mais elle va en quelque sorte droit à l'intérieur.
No eye on...
En route pour le club Silencio.
Il n'y a pas d'orchestre.
No Je suis le roi. Orchestre. Je suis le roi.
Tout ceci n'est qu'un enregistrement. No eye panda et pour
horizontalement à travers une suite.
On entend un orchestre.
De
si l'on veut entendre une clarinette, tendons l'oreille.
À travers cages d'escalier, de montes charges, interstices, puis de lumière conduite en tour de cheminée.
Un trombone à coulisses.
Acoustique viennent converger.
Un trombone con sordina. J'aime le son du trombone en sourdine.
Du palais. J'entends.
J'aime le son.
Tout.
Oui, dans Mulholland Drive de David Lynch, il y a cette séquence très, très étrange dans laquelle les deux protagonistes, ces deux femmes, s'approchent. C'est d'ailleurs une séquence assez dramatisée, comme ça. On s'approche en voiture d'un club qu'on voit d'abord de loin. On finit par déchiffrer cette écriture en néon bleu qui est au-dessus de la porte du club. Et ce qui est écrit, c'est « Silencio ». C'est-à-dire on entre dans un club qui se nomme « Silence ».
Voilà.
Et qu'est-ce qu'on y voit? Il y a une sorte de présentateur, disons, entre le magicien, le bonimenteur, le présentateur de cirque, qui dit
qu'il n'y a pas d'orchestre.
Il n'y a pas d'orchestre dans ce club, il y a donc rien qui produit de la musique, et pourtant on ne cesse d'entendre toutes sortes de sons d'instruments.
Ceci n'est qu'une illusion.
Et ce qu'on voit, c'est ce présentateur.
Écoutons.
Qui, avec des gestes assez, une gestuelle assez théâtrale comme ça, indique une direction, un point dans le théâtre, comme si c'était une sorte de théâtre intérieur qu'on porte, je crois, tous en nous. Ce théâtre dans lequel, finalement, lui, il dirige. Au fond, c'est peut-être aussi une figure de chef d'orchestre, mais un chef d'orchestre qui viendrait déclencher des sons imaginaires qui indiquent leur provenance, et tout d'un coup, par une espèce de baguette magique, comme si ces mots avaient un effet immédiat, on entend le son. Alors je crois que c'est exactement ce qui se passe dans notre écoute intérieure, c'est pourquoi j'aurais tendance à voir même cette figure étrange du présentateur, bonimenteur, comme une incarnation, comme une allégorie de l'imagination. Jusqu'au moment où intervient disons l'instant le plus étrange, le plus dérangeant dans ce club, on voit une chanteuse qui s'avance devant le micro, qui se met à chanter, et donc on y croit, elle est vraiment là. Et puis tout d'un coup, elle s'écroule et son chant continue. Et là, voilà, on prend conscience que tout ça est une scène imaginaire comme David Lynch sait si bien les orchestrer. Que l'imagination auditive a ce pouvoir infini et fascinant de créer tous les concerts qu'on peut imaginer.
J'ai trouvé une oreille.
Tiens donc.
J'ai pensé qu'il fallait vous la porter.
Oui, tu as bien fait. Jetons-y un coup d'œil.
Attention, le roi.
Tu portes la main à ton oreille. Tu écartes les draperies du baldaquin pour éviter qu'elle n'étouffe quelque chuchotement ou écho que ce soit. Chaque pas, chaque bruit de serrure, chaque éternuement retentit, résonne, se propage horizontalement à travers une suite de salles communicantes, de vestibules, de colonnades, de portes de service, et verticalement à travers cages d'escalier ou de monte-charge, interstices, puits de lumière, conduites, manteaux de cheminée. Et tous ces parcours acoustiques viennent converger dans la salle du trône.
L'oreille est un organe capable d'enregistrer des écarts de pression acoustique considérables. Le pavillon de l'oreille capte les vibrations sonores qui provoqueront au niveau de la cellule sensorielle le départ de l'influx nerveux. Le mécanisme de transformation est complexe et met en jeu les trois compartiments de l'oreille. L'oreille externe, le pavillon, conduit auditif fermé par le tympan.
Ah, je vois que la petite lumière du micro de Peter Sandy se rallume.
C'est très frappant de constater que le vocabulaire qu'on utilise pour décrire l'oreille, pour décrire l'anatomie de l'oreille, c'est un vocabulaire qui est de part en part architectural. Dans l'oreille, il y a un labyrinthe, il y a un vestibule, le tympan même, c'est un élément d'architecture. Au-dessus des portes ou des frontons des églises, par exemple. Il y a un colimaçon, il y a des pavillons, voilà. Comme si, en fait, l'oreille était déjà une sorte de construction à l'image d'un palais.
Toi aussi, Milena, tu t'es retrouvée à espionner dans une cathédrale, je crois.
Oui, je me suis retrouvée comme une espionne cet été en Sicile, dans la ville d'Agrigente. Et en fait, si on se mettait là où il y avait le prêtre avant, et ben on pouvait entendre ce que disaient les gens qui étaient à 50 mètres, qui étaient à l'entrée de la cathédrale. Enfin, c'était drôle de penser qu'on pouvait s'entendre de si loin.
Et comment ça se passait? C'était grâce à un micro qu'il y avait ce phénomène?
Non, c'était les échos, enfin, je sais pas trop. L'architecture peut-être, enfin, la façon dont la cathédrale est construite. Qui permettait ça.
Pavillon, trompette, tympan, colimaçon, labyrinthe, tu es tapis au au fond, dans la zone la plus intérieure du palais Oreille.
Ce qu'on constate aussi par ailleurs dans l'histoire des dispositifs d'écoute, c'est toute une série de constructions qui peuvent être soit des constructions naturelles, une grotte, une caverne, qui possèdent des propriétés acoustiques particulières. C'est notamment le cas d'une grotte qui est très célèbre, qui a été décrite par beaucoup de voyageurs, une grotte qui se trouve près de Syracuse et qui a été surnommée l'oreille de Denis. L'oreille de Dionysos, le nom grec de Denis, qui était le tyran de Syracuse. C'est en fait Caravage qui a donné ce surnom en visitant la grotte. On l'a surnommé ainsi parce que le tyran de Syracuse plaçait ses prisonniers en contrebas dans la grotte et dans une petite cellule naturelle, c'est-à-dire une espèce d'anfractuosité dans la grotte où lui-même pouvait se situer. Il se plaçait là pour écouter, épier les conversations des prisonniers. Après, sur ce modèle, on a construit aussi beaucoup d'édifices. On trouve toutes sortes de palais à la Renaissance avec des conduits auditifs, des sortes de tubes acoustiques qui sont des porte-voix secrets, si on veut, et qui conduisent, donc propagent le son. Alors, des fois, on voit que le bout étroit du conduit arrive, par exemple, dans la bouche d'une statue qui est située dans une autre salle, comme si la statue révélait, en quelque sorte, les secrets des conversations qui sont entendues ailleurs.
Voilà. Un conduit auditif qui relie une pièce à la bouche d'une statue. On n'est pas obligé de s'en servir pour espionner. Souvenez-vous. En plein milieu d'une fête décadente, dans un palais romain, Madeleine entraîne Marcello dans un salon réservé aux « conversations sérieuses », comme elle dit. Elle le fait asseoir et disparaît dans une autre pièce, où la bouche d'une statue communique directement avec le salon où l'attend Marcello. Écoutez.
Marcello. Marcello, m'as-tu déjà entendu si près? Marcello, tu m'entends?
Où es-tu? Madeleine, tu m'entends?
Oui.
D'où est-ce que tu parles?
Oh, de très loin, très loin. Et si je me tais, c'est comme si je n'existais plus.
Madeleine? Madeleine? Madeleine?
Oui, je suis toujours là, ne bouge pas.
Vous savez qu'il n'y a que dans les films de Fellini que les conduits auditifs propagent de fiévreuses déclarations d'amour.
Come on.
Ailleurs, ils trahissent les complots des prisonniers.
Ce dispositif de surveillance qui a vraiment fait date dans l'histoire, un dispositif dû à Jeremy Bentham, et il a imaginé le plan d'une prison qui permettrait de surveiller parfaitement les prisonniers, puisqu'il y aurait une tour centrale, et depuis cette tour centrale, on pourrait voir toutes les cellules qui se disposent de façon circulaire autour de la tour centrale. Donc les prisonniers seraient vus en permanence, et il a imaginé une sorte de prolongement acoustique de ce dispositif de surveillance. C'est-à-dire qu'il y aurait des tuyaux, des sortes de conduits auditifs en métal qui relieraient comme des sortes de grands porte-voix la tour centrale à chaque cellule de prisonnier. Il pensait que c'était un dispositif qui pouvait fonctionner dans les deux sens. C'est-à-dire que le gardien pourrait donner des ordres aux prisonniers, mais il pourrait évidemment aussi épier, donc écouter les conversations.
Ça me rappelle une conversation avec Michel. Une ancienne demoiselle du téléphone qui vient d'avoir 81 ans.
Ah ben c'était à Mulhouse, aux centrales téléphoniques de Mulhouse, il n'y en avait qu'un. Hein.
Est-ce que vous vous souvenez de votre nom de code, si je puis dire?
Il me semble que c'était Mulhouse 162, mais ce n'est pas sûr du tout. Hein. Il y avait Mulhouse devant, ça c'est sûr.
Étudions de façon analytique le comportement d'une de ces opératrices.
Opératrice 1, j'écoute.
Étudions de façon analytique le comportement d'une de ces opératrices. En permanence, ses yeux observent les différences.
À l'arrivée, on disait, alors pour moi, mettons ça, c'était 162, je ne suis pas sûr. Mulhouse 162, j'écoute.
Allô.
Il y avait des surveillants qui surveillaient en permanence. Il y en avait une qui était dans la salle, qui pouvait écouter sur toutes les positions. Et il y avait en plus des surveillances de circuit. Bon, moi, je me souviens d'une fois où bon, je n'avais pas compris le nom du pays, parce que les noms alsaciens, hein, et j'ai entendu une voix qui venait du ciel et qui m'a répété le nom, mais plus clairement. Et là, je ne savais pas, c'était au début. Mais après, on m'a dit, mais oui, mais au-dessus, il y a des surveillantes, elles écoutent. Alors, vous savez, elle devait aussi avoir pas mal de monde à surveiller, alors je ne sais pas. Non, franchement, moi, le côté espionnage, alors pour moi, non. Non, franchement, on n'écoutait pas. On entendait, mais on n'écoutait pas.
La grande question de l'espionnage auditif, c'est évidemment la question du pouvoir. Et penser l'écoute en termes de pouvoir, c'est au fond difficile parce qu'on a cette idée, ce lieu commun, selon lequel finalement l'écoute c'est une affaire d'hospitalité à l'autre, c'est une idée bon, d'ascendance certainement chrétienne aussi, le confessionnal, voilà, je suis tout oui, je t'écoute, c'est-à-dire je te donne l'hospitalité en quelque sorte en moi. Voilà. Écoute a toujours voulu dire cette pratique dissymétrique de quelqu'un qui est embusqué, qui est caché, qui est inaccessible et qui donc exerce un pouvoir auditif en recueillant des informations dans un sens unique, finalement. Évidemment, lorsque l'écoute est ainsi exercice d'un pouvoir, écouter c'est toujours exercer un pouvoir sur l'autre, c'est d'ailleurs pour ça que écouter c'est toujours aussi être responsable de ce qu'on écoute. Il faut avoir présent à l'esprit cette puissance de l'écoute dans sa dissymétrie violente pour penser que quand on écoute, on est responsable de quelque chose. C'est pas uniquement un accueil bienveillant.
Au Canard Enchaîné, on se pose des questions. Le dessinateur Escaro, l'un des administrateurs du journal, a fait une surprenante découverte cette nuit. Alors qu'il passait devant les futurs locaux de l'hebdomadaire satirique, un immeuble en construction rue Saint-Honoré, il a aperçu par hasard de la lumière.
Je suis monté et là je suis tombé sur toute une équipe qui était en train d'installer des fils, qui avait soulevé des lattes de parquet, qui perçait des trous dans les plafonds et dans les murs.
C'était vraiment des micros.
Ah oui, il y a qu'un. On va faire un numéro là-dessus, c'est intéressant.
On a eu 1000 témoignages récemment dans l'actualité, comme on dit, de l'exercice du pouvoir d'écoute. On connaît tous bien ça. Comme si donc cette espèce de force ou de violence archaïque de l'écoute, qu'on a tendance à oublier pour la neutraliser, comme si elle ressurgissait malgré tout. Et je crois que l'expression qui dit le mieux peut-être ce pouvoir et ce fantasme de toute puissance de l'écoute, c'est cette expression de grandes oreilles. Voilà. On parle des grandes oreilles pour désigner des dispositifs d'espionnage.
La guerre cachée.
Une fois installé, on peut l'écouter à partir de n'importe quel téléphone dans le monde. À Singapour, Karachi et même Moscou. C'est votre barbe, votre côté russe qui m'a fait penser à vous.
J'ai ausculté ma salle de conférence. Je suis persuadé qu'il n'y a aucun micro à l'intérieur. Je sais que ma ligne n'est pas espionnée. Et lorsque je veux parler, j'ai un système de brouillage automatique. Suis-je vraiment à l'abri de la discrétion?
Non, votre salle de conférence a malheureusement des fenêtres. Et les carreaux des fenêtres vibrent. Vibrent chaque fois que vous parlez. Il suffit que l'on envoie dessus un rayon infrarouge ou un rayon laser et que l'on démodule ensuite ce rayon laser et infrarouge pour récupérer effectivement votre conversation. Et de toute façon, un conseil, n'utilisez pas de fenêtres dans les salles de conférence.
Les murs ont ici des oreilles. Des espions sont postés derrière tous les rideaux, toutes les courtines, toutes les tapisseries. Les espions, les agents de ton service secret, chargé de rédiger de minutieux rapports sur les conjurations qu'abrite le palais.
Stop !
Georges Banu a passé son enfance en Roumanie, où les murs avaient sacrément des oreilles.
Oui, j'ai quitté la Roumanie à 30 ans, après une période d'enseignement dans l'université, d'activité dans la presse.
À cette époque d'ailleurs, Ceausescu s'était même fait confectionner un sceptre, raconte-t-on.
Aujourd'hui, je le sais pertinemment que j'ai fait l'objet d'une surveillance sans doute auditive et sans doute, comme je dirais avec ce terme que j'aime bien, associative, c'est-à-dire parmi mes amis, parmi mes voisins, il y a des gens qui ont fourni des renseignements sur moi. Moi, c'est quelqu'un qui m'a dit, qui a regardé mes papiers, mon dossier, et qui m'a dit justement qu'il y avait le plan de mon appartement dans le dossier de Bucarest. Donc, le plan de l'appartement ne pouvait être fait que par les amis les plus proches qui avaient dormi chez moi. Et ce qui est terrible, je me permets de le dire là parce que c'est très émouvant, ce qui est terrible, c'est que ça produisait un soupçon généralisé. On ne savait pas vraiment qui était l'indicateur. Et très souvent, on supposait qu'il y en avait un, mais c'était un autre. Donc, tout d'un coup, on n'était pas sûr de nos amis, de tous nos amis.
Tu le laisserais voyager, toi, si tu étais à leur place ?
Laszlo justifie l'interdiction de visa de Hauser.
C'est vrai que ça a été une forme de pression exercée quotidiennement. Ça, on ne peut pas croire. C'était quotidiennement. Donc, les gens se sentaient et se pensaient surveillés. Ma mère, surtout plus que mon père, qui était un peu plus ludique, un peu plus irresponsable, je ressemble plutôt à mon père qu'à ma mère. Ma mère était tout le temps, ne parlons pas, ne faisons pas. Elle est venue ici à Paris, on a parlé, elle me disait ce qui se passe en Roumanie, seulement sur une plage de Normandie, me parlait doucement à l'oreille. J'ai dit, mais parle plus fort, Ceaușescu, ne t'entend pas ici. Et elle m'a dit, mais on ne sait jamais. Elle m'a dit, tu comprends, j'étais dans le métro, j'ai entendu deux Roumains qui parlaient le roumain derrière moi dans le métro. Donc, heureusement que je n'ai rien dit. J'ai analysé tout le temps ça comme une sorte de stratégie du pouvoir pour injecter la peur comme régime constant de la communauté urbaine, de la socialité. À Moscou, plus qu'en Roumanie, oui. Dès qu'on entrait, on mettait des coussins sur le téléphone. Ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, quand vous faites un colloque, on vous dit, il faut parler dans le micro parce que tout est enregistré. Et moi, je dis, mais je suis parti d'un pays où je ne voulais pas que ça soit enregistré. Et deuxièmement, c'est vrai que dans les appartements communautaires, où chacun était convaincu qu'un des voisins était un indique, on se fiait toujours, donc soit à des stratégies très simples, l'eau courante, le robinet ouvert, plein pot, mais surtout c'était le plein air. Quand vous voyez les gens partir dans les jardins sous la pluie ou sous une tempête de neige, vous saviez qu'ils avaient quelque chose d'important à se dire et que là on ne pouvait pas enregistrer tout.
Oui, si seulement on pouvait en être sûr.
19h32. Aucun événement particulier à signaler.
Je crois qu'on peut dire que l'économie ne marchait pas bien, mais la surveillance parfaitement. J'avais lu une histoire assez amusante. C'était l'ambassadeur de France à Varsovie. Et là, il avait deux filles qui étaient très en forme comme ça et qui jouaient. Bon, il y avait le chaos à la maison. Donc, et à un moment donné, l'ambassadeur a crié et dit « Silence, calmez-vous !» Et les filles ont eu peur. Et tout d'un coup, toutes les deux se sont précipitées sur la table. Et la table s'est fendue. Et la table était truffée de micros.
Tout a été fait, camarade ministre, avec le meilleur matériel et le plus récent. On n'a oublié aucun interrupteur, même aux toilettes. Tout l'immeuble a été mis sous surveillance.
Vous avez dit que vous trouveriez. Alors trouvez.
Les archives démontrent, à mon avis, d'un côté cette dimension de la surveillance généralisée et de l'autre côté son caractère ubuesque parce que les indicateurs étaient très souvent des idiots qui ne distinguaient pas l'essentiel du secondaire, du subsidiaire. Et donc, vous trouvez dans les papiers des indications. Un tel dit qu'il a lu Marcel Proust. Et l'officier de police met un point d'interrogation pour Marcel Proust. Il dit, surveillez-le.
Je sous-signais Christa Maria Zilant. M'engage de mon plein gré à informer les services de sécurité de l'État en tant que collaboratrice non officielle du ministère.
Seule dans la nuit, j'ai compris que dans la salle comme spectateur, je me retrouvais pour la première fois du côté des surveillants. tandis que dans la vie, j'avais passé de longues années du côté des surveillés. Et oui, ce sont les mots de Georges Banu qui, de surveiller, devient celui qui analyse les dispositifs de surveillance au théâtre. Il se prend tout naturellement de passion pour Polonius. Souvenez-vous.
À propos de Polonius. J'étais spectateur de la surveillance, parfaitement mise en scène de dispositifs qu'on nous montre et qui sont pervers aussi, parce que nous sommes les témoins de la surveillance. Nous savons plus que les personnages sur scène. Et l'exemple le plus célèbre, c'est bien entendu Hamlet, où nous savons que la pièce jouée devant le roi, devant Claudius, c'est un piège pour voir si Claudius est coupable ou non. Et nous, nous voyons quoi ? Nous voyons le dispositif de la police. C'est-à-dire, nous voyons le coupable supposé et le surveillant.
J'entends beaucoup parler de votre travail. La culture étant de bonnes mains, m'a-t-on dit. On cite souvent votre nom au parti.
Nous sommes le glaive et le bouclier du parti, camarade ministre. J'en suis conscient à chaque instant.
Que pensez-vous de lui ?
Peut-être que...
Peut-être que quoi ?
Peut-être n'est-il pas aussi propre qu'il paraît.
Attention ! Ça sérénissime.
Dans le palais, des plis volumineux de rapports secrets sont pondus tous les jours par les machines électroniques et déposés sur les marches du trône à tes pieds. Inutile que tu les lises. Les espions ne peuvent que confirmer l'existence de conjurations qui justifient la nécessité de leur espionnage et doivent en même temps démentir tout danger immédiat, ce qui prouve l'efficacité de leur espionnage.
Des machines électroniques, ça me fait penser qu'aujourd'hui, en France, il y a 20 000 personnes placées sur écoute et que ces interceptions sont toutes centralisées dans un nouveau site à Élancourt dans les Yvelines. Représentez-vous un bunker enfoui à 10 mètres sous terre pour éviter tout risque d'inondation, construit en béton armé pour résister aux crashs d'avions. À l'intérieur, des milliers de serveurs et des kilomètres de câbles rouges, bleus, verts. Une forteresse pour des millions de gigaoctets de conversations privées.
Du palais, j'entends tout.
Marc Sommerer, juge d'instruction au tribunal de Paris, a des espions qui écoutent pour lui.
Ah ouais, bien sûr.
Tu sais combien il y a de fêlés qui sont venus me parler d'un soi-disant complot aujourd'hui ?
Alors, comme le roi Italo Calvino, j'ordonne des écoutes, mais ce n'est pas moi qui les exécute. En fait, ce sont les policiers qui me sollicitent et ils me soumettent une demande qui consiste à placer un suspect, un individu sur écoute téléphonique. Ils m'adressent ensuite un rapport motivé sur la base de laquelle je vais leur délivrer ce qu'on appelle une commission rogatoire d'écoute téléphonique. C'est un acte par lequel je les autorise à placer une ligne téléphonique sur écoute pour une durée qui est limitée dans le temps. C'est une durée de 4 mois, mais qui est renouvelable sans limite.
Rien d'endormant. Heureux qui communiste a fait un long voyage.
Alors beaucoup de personnes qui sont placées sur écoute dans mes dossiers, dans les dossiers de grand banditisme, sont des voyous qui ont une certaine expérience et donc qui se doutent qu'ils risquent d'être placés sur écoute téléphonique. On a affaire à des gens qui ont une certaine expérience, qui ont appris de leurs complices, qui ont appris de leurs prédécesseurs, qui ont appris également des dossiers dans lesquels ils ont déjà été impliqués. S'ils ont déjà été incarcérés, ils vont avoir des échanges avec d'autres détenus qui font que ils vont apprendre un certain nombre de pratiques pour essayer de déjouer les écoutes. Une des pratiques les plus courantes consiste à ne jamais désigner une personne par son nom. Au lieu de parler d'une personne, on va dire l'autre, le poteau. La grande expression, c'est de parler de trucs. Parfois, les gens qu'on écoute utilisent tellement de sous-entendus et tellement d'implicites qu'ils arrivent à ne pas se comprendre eux-mêmes. Il y avait deux personnes qui étaient donc placées sur écoute, et l'un d'entre eux a dit à un moment qu'il a truqué le truc. Et là, à ce moment-là, la personne qui était à l'autre bout du téléphone ne comprenait rien. Finalement, ils ont fini par raccrocher et convenir de se retrouver pour parler de vive voix du truc qu'il fallait truquer.
Devinez qui craque, qui oublie de truquer et qui lâche un nom, un lieu, un horaire qu'il fera plonger ? Toujours un gamin tout en bas du réseau qui se vante de ses exploits à sa copine au téléphone. Il faut toujours mettre les petites copines sur écoute.
Allô ? Allô ?
Il m'est arrivé dans un dossier de lire des retranscriptions de conversations qui me concernaient. C'est une personne qui était en détention, qui avait accès à un téléphone portable. On l'a suspecté de continuer à diriger un trafic de drogue depuis la détention. Et il y avait un passage où cette personne expliquait que je venais de l'entendre, qu'on avait passé plusieurs heures dans mon cabinet, que je comprenais strictement rien au dossier tellement ça avait été long, et que j'étais fou. Ça m'a amusé. Alors je ne me suis jamais dit que mes supérieurs pouvaient me placer sur écoute. Je n'en vois pas trop l'intérêt. Par ailleurs, il faut savoir que placer quelqu'un sur écoute, ça demande quand même des moyens, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, c'est fastidieux. Il faut vraiment avoir envie d'aller chercher une information très importante. On travaille sur des réseaux qui ont des moyens, des réseaux qui sont assez structurés. Mais je ne pense pas qu'ils aient les moyens de nous placer, nous, magistrats, nous, enquêteurs, sur écoute téléphonique. En tout cas, on n'en a jamais entendu parler. On n'a jamais trouvé en perquisition le matériel qui permettait de nous placer sur écoute téléphonique. En ce qui me concerne, moi, j'ai la naïveté de penser que ce n'est pas le cas. Je
crois que c'est toi. Les retranscriptions d'écoute. Des pages de dialogue où les interlocuteurs truquent des trucs. Parfois, une semaine de lecture pour un seul dossier. Vous savez que certains magistrats, pour aller jusqu'au bout de leur lecture, s'amusent à interpréter les dialogues à plusieurs, en variant les accents, les intonations ?
Un juge d'instruction peut placer tout le monde sur écoute téléphonique. Par exemple, s'il veut placer un avocat sur écoute téléphonique, donc il faut déjà suspecter cet avocat d'être lui-même impliqué dans la commission d'infraction. Lorsque vous voulez placer un magistrat sur écoute téléphonique, c'est possible. Mais dans ce cas-là, il faut, si c'est un juge du siège, il faut aviser le premier président de la cour d'appel. Et si c'est un magistrat du parquet, il faut aviser le procureur général de la cour d'appel. Vous pouvez également placer des parlementaires sur écoute téléphonique. Je ne sais pas si le président de la République peut être mis sur écoute. Je ne sais pas. Ça.
Tu peux tenter de reconstruire ton palais morceau par morceau en situant chaque piétinement, chaque accès de tout en un point particulier de l'espace, imaginant autour de chaque signe sonore des murs, des plafonds, des planchers, donnant une forme au vide à travers lequel se propagent les bruits et les obstacles auxquels ils se heurtent, faisant en sorte que les sons même suggèrent les images correspondantes.
L'appareil de réception, par son pavillon, concentre les ondes aériennes sur le tympan et renforce leur pression. Elle est triplée pour la fréquence 1000. L'appareil de transmission, transducteur mécanique des vibrations, à travers un élément solide, la chaîne des osselets,
puis pavillon liquide et membraneux. Tapant colimaçon labyrinthe, tu es tapis au fond, dans la zone la plus intérieure du palais oreille.
Eh oui. Quand vous n'avez que le son, vous êtes obligé d'imaginer vous-même l'image qui va avec. Blowout de Brian De Palma. Le bruit enregistré d'un accident pour reconstruire une à une les images d'un attentat. Souvenez-vous. Après un accident à l'étranger, Flore, à l'hôpital, cherche à reconstruire l'espace inconnu autour d'elle.
Donc quand on n'arrive plus à voir, on écoute. Donc effectivement, j'ai été hospitalisée à la suite d'un accident, dans différents pays, dans différents hôpitaux, et donc enfermée à la fois dans un lit et dans une pièce. J'étais pas consciente de tout ce qui se passait. mais j'entendais des bruits, des machines. En fait, je ne voyais pas des malades qui étaient à côté de moi, mais j'entendais les bip-bip des machines qui écoutaient leur battement de cœur, leurs pulsations, les crises d'urgence. Quand tout d'un coup, les bruits s'accéléraient, on savait qu'il se passait quelque chose. J'entendais les bruits des pas des infirmières, des médecins qui couraient vers les lits d'à côté. Mais tout ça sans pouvoir voir ces malades. Donc je pouvais imaginer au bruit des bips le nombre de malades qui étaient potentiellement autour de moi, mais sans avoir une exactitude parce que je n'avais pas la confirmation visuelle. Je n'ai qu'un seul souvenir de cette salle, c'est en fait la porte d'entrée, parce que immobilisée, je n'attendais qu'une chose, c'est les visiteurs. Donc c'était à la fois la visite des médecins, la visite de mon copain et de mon ami que j'attendais. Donc moi, je me souviens d'avoir regardé vers la porte en fait, d'entrée, avec espoir qu'on vienne me voir, moi. Quand j'ai été hospitalisée après à la Pitié-Salpêtrière à Paris, j'étais toute seule, j'avais pas le bruit des autres malades, mais j'ai eu une expérience angoissante avec des bruits d'hélicoptère. Quand on sort d'un accident, on a l'impression que tout peut arriver. Et donc à chaque fois que j'entendais l'hélicoptère, je ne pouvais pas le voir et j'imaginais qu'il allait m'arriver dessus. Que finalement, quand c'était arrivé une fois, ça allait re-arriver. Voilà, je ne savais pas d'où il venait, où il allait. Et j'ai découvert finalement plus tard, seulement plus tard, quand j'ai pu me lever, j'ai pu voir ces hélicoptères qui arrivaient sur le toit de la Pitié et qui arrivaient en fait pile au-dessus de ma chambre. Donc c'était à la fois une peur qui était un petit peu dérisoire, mais qui en même temps était fondée puisque l'hélicoptère finalement n'était qu'à quelques mètres de moi à chaque fois.
Existe-t-il une histoire qui relie un bruit à un autre ?
Oui, donc pendant mon accident et après, lors de mon hospitalisation, surtout au Sri Lanka, parce que c'était vraiment là où j'étais au plus mal en fait, j'étais dans un état de flou permanent, mais il y a deux choses qui m'ont vraiment marquée. C'est à la fois mon corps, moi, mon esprit, qui répétait sans cesse, sans s'arrêter, en boucle, le nom de la ville où j'ai eu mon accident. Anuradhapura. Et c'était Anuradhapura, Anuradhapura, Anuradhapura. Je ne sais pas si c'était un mécanisme de mon esprit pour essayer de rester éveillée, de ne pas m'évanouir. Une espèce d'instinct de survie qui, pour ne pas m'évanouir, répéter. En plus, le nom de la ville est très compliqué. J'avais mis du temps d'ailleurs à voir exactement où j'allais avant mon accident parce que je me disais, ah non, c'est quoi ce nom de cette ville ? Et donc, en même temps, comme si mon esprit se disait, si tu arrives à t'en souvenir de ce nom compliqué, de le répéter, tu t'évanouiras pas, tu resteras consciente, et puis, au final, tu vivras.
Anuradhapura, 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 au Sri Lanka. Chaque histoire que tu penses deviner renvoie à ta personne. Rien ne se passe dans le palais où le roi ne joue un rôle, actif ou passif.
D'ailleurs, je suppose qu'il me surveille. Eh bien, qu'il me surveille. Ils verront
de l'indice le plus faible, tu peux tirer un augure sur ton sort.
J'espère qu'il me surveille. Ils verront.
Vous aussi, vous ramenez tout à vous et vous jouez parfois aux espions comme des enfants ? Ariane Chautin, psychanalyste, a bien des choses à dire là-dessus.
Alors, je ne sais pas si le roi peut être assimilé à un enfant dans la position qu'il a. Il est vraiment loin, en fait, de quelque chose qui s'apparenterait simplement à ce qui se passe pour les enfants. Mais pourtant, ça évoque ça plutôt sous l'angle, effectivement, de ce qui se passe dans la petite enfance, au fond, où les enfants épient facilement les sons, enfin, sont tentés par ça. Ils vont avoir envie d'écouter qu'est-ce qui se passe dans la chambre des parents, qu'est-ce que c'est que ces sons, qu'est-ce que c'est que ces voix, qu'est-ce que c'est que ces bruits de corps. Et ils les guettent, ils les interprètent. Bon, c'est aussi quelque chose dont Freud a beaucoup parlé, évidemment. Et il va interpréter ça. Il va se demander, est-ce que c'est une violence? Est-ce que c'est une agression? Il va en faire des fictions. Et au fond, les murs ont des oreilles quand il y a des enfants dans une maison.
Christelle se souvient.
Je pense que je devais avoir 8 ans. Je n'étais pas si petite que ça. Et en même temps, voilà, c'était parti d'un jeu un peu débile avec ma sœur. On s'était dit qu'on allait espionner notre père quand il recevait quelqu'un à la maison. Et à chaque fois que mon père recevait quelqu'un à la maison, il fermait les portes du salon. Et le fait que ces portes soient fermées, ça nous agaçait beaucoup parce que c'était vraiment l'endroit où normalement, le lieu de vie en fait de la famille. Donc là, je suis allée me mettre derrière le canapé. Pour moi, c'était un jeu, enfin, c'était un jeu d'espionnage. Aller écouter ce qui se dit chez les adultes. Pour moi, c'était des gens très très âgés, parce qu'ils avaient l'âge de mes parents, donc ils étaient très vieux, ils devaient avoir 40 ans. Et c'était des gens qui... Enfin, donc un monsieur qui se mettait à pleurer. Et ce monsieur, et je le trouvais extrêmement gentil, extrêmement sympathique, et ça me faisait beaucoup de peine. Et là, je me suis rendu compte que j'étais vraiment... C'était pas du tout bien d'entendre ça.
C'est vrai que c'est quelque chose de frappant, ça, dans l'enfance. Enfin, ce désir d'écouter, finalement, de faire attention à ce qui se passe autour, et puis d'essayer de déchiffrer à partir de là le mystère de ce que c'est que la vie des parents, des adultes, de toutes ces grandes personnes qui ont l'air d'en savoir beaucoup plus long que soi sur l'existence.
Pour qui vit dans l'anxiété, tout signe qui rompt la norme apparaît comme une menace. Le moindre événement sonore te semble annoncer l'accomplissement de tes craintes.
La régularité des sons, l'irrégularité, le silence, tout va dans le sens de vos craintes. La sédition, bien sûr. Judith, comédienne de théâtre, en sait quelque chose.
Je pense que ça, c'est vraiment le vécu du comédien. Le fait d'espionner le public, dès avant le début du spectacle, en fait, dès l'installation du public. Souvent dans les petits théâtres ou même dans les plus grands théâtres, on est en fait juste derrière le rideau et on, évidemment on est déjà prêt à entrer en scène et on écoute l'installation du public. Et déjà là, on croit attraper des signes de ses dispositions, de son humeur. Par exemple, un public qui bavarde pas du tout avant le début du spectacle, qui s'installe silencieusement, c'est très mauvais signe pour nous. C'est très désagréable. On aime sentir que les gens arrivent enjoués, qu'ils sont déjà dans une expérience un peu de sociabilité, de convivialité, qu'ils sont eux-mêmes pas inhibés, en fait. On n'aime pas sentir qu'ils ont le trac ou qu'ils sont tendus. Parce que s'ils sont tendus, ça crée des dispositions qui nous paraissent vachement toxiques pour la représentation. Donc déjà, on sent mal une salle qui s'installerait silencieusement, qui ne viendrait pas avec son histoire, déjà.
Parfois, on est condamné à écouter le silence. Vous souvenez-vous de Jeanne, dans la pièce Incendie de Mouawad ? Sa mère a décidé de ne plus parler, comme ça, d'un coup. 5 ans de silence avant de mourir. Et parce qu'un infirmier chargé de s'occuper d'elle a enregistré son silence la nuit, Jeanne écoute au casque, chez elle, dans la rue, en voyage au Liban, partout, le silence opaque de sa mère. 50 heures de silence et de respiration pour tenter de comprendre.
Ensuite, dès que le spectacle commence, qu'on entre en plateau, on commence à poser nos premiers mots sur le silence. On perçoit très bien les différentes qualités de silence d'une salle. Il y a des silences qui respirent avec nous. C'est très difficile de décrire rationnellement comment on fait la différence entre un silence qui respire avec nous, où les spectateurs sont silencieux parce qu'ils sont concentrés, et les fois où les spectateurs sont silencieux parce qu'ils sont fermés, parce qu'ils refusent quelque chose, parce que c'est froid. Et il peut y avoir parfois des longues minutes de spectacle où on n'entend pas le moindre grincement, le moindre soupir. Ça fait un silence épais, touffu, et ça peut devenir très très angoissant. L'épaisseur du silence, parce que dans ce silence-là, s'il n'y a plus les signes de l'adhésion, très rapidement, le silence va devenir le signe du refus. Et parfois, pour sortir de l'angoisse du silence, on est prêt à tout, y compris, par exemple, à se mettre à surjouer, à faire des gags, en fait, juste pour obtenir un rire. Parce que la salle, du point de vue de l'acteur, il faut se représenter que c'est un océan de nuit. C'est le noir complet. L'acteur en plateau, il est ébloui par les projecteurs. Donc il n'a accès à son public que par l'oreille. C'est l'angoisse qui tend l'oreille, c'est pas le désir.
Au fond, votre faculté d'écoute n'est-elle pas proportionnelle à la peur qui vous hante ? Écoutez ce que dit Nietzsche. Ce n'est que dans la nuit et dans la semi-obscurité des sombres forêts et des cavernes que l'oreille, organe de la crainte, a pu se développer aussi abondamment qu'elle l'a fait grâce à la façon de vivre de l'époque craintive, c'est-à-dire de la plus longue époque humaine qu'il y ait eu. Lorsqu'il fait clair, l'oreille est beaucoup moins nécessaire.
Que sais-tu de cette fameuse oreille ?
J'entends des trucs.
Attention, vous entendez des coups, non ?
Y a-t-il quelqu'un qui frappe de l'autre côté du mur ?
Les coups se transforment en codes ?
Serait-ce des signaux traduisibles en un code ?
Je suis le roi.
Quelqu'un est-il
je
en train
suis
de former des
lettres ?
Des mots ?
Le code devient une voix insultante. Vous entendez les insultes ?
Chien bâtard d'usurpateur ! Vengeance ! Vengeance ! Bientôt la chute ! Le cercueil, ton cercueil ! Je sortirai de ce cercueil et tu y entreras !
Stop !
Bon, ce qui m'est arrivé...
Ariane Chautin.
Il y a quelques années, dans un groupe de paroles avec des adolescents, c'était de rencontrer un jeune homme qui portait un casque sur ses oreilles et qui refusait de l'enlever, en fait, comme j'ai vu assez vite qu'il valait mieux pas quand même trop insister, que ça semblait être quand même quelque chose de très problématique pour lui d'enlever ce casque. J'ai pas insisté et au bout d'un certain temps, bon, il était sans doute dans une relative confiance. En fait, il acceptait d'enlever un des deux côtés du casque. Il gardait un écouteur sur l'oreille et il libérait une oreille seulement. Bon. Et puis, un jour, à la fin d'un des groupes comme ça de discussion, enfin de conversation que j'animais, il était là encore un peu dans la salle et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il écoutait comme ça, ce casque, enfin, ce qu'il écoutait. Et il m'a répondu, à ma grande surprise, que c'était des prières. Donc c'est vrai que là, j'étais quand même très étonnée parce que je n'avais pas du tout imaginé que ce jeune homme écoutait des prières. Et donc, un peu plus tard, il m'a expliqué qu'au fond, les prières lui permettaient de couvrir le bruit des voix qu'il entendait. De traiter quelque chose de tout à fait insupportable à quoi il avait affaire, c'est-à-dire des voix mauvaises, des voix injuriantes, méchantes qu'il entendait et qu'il recouvrait, pas par n'importe quel choix quand même.
La pluie a cessé, ça n'a pas duré longtemps. Vous savez à quoi je pense ?
Je suis le roi.
Que nous nous prenons à notre propre piège.
Je suis le roi.
Et une fois que nous sommes pris, nous ne pouvons pas nous en dégager.
Est-il quelqu'un qui frappe de l'autre côté du mur ?
Nous nous débattons. Nous nous agitons, mais ce n'est qu'une apparence. En réalité, nous...
Quelqu'un est-il en train de former
des... Nous faisons semblant de vouloir nous en échapper.
Serait-ce des signaux traduisibles en un code ?
Lise nous dit quelques mots de sa maman, qui elle aussi entendait des voix.
Elle entendait des voix et elle pensait qu'elle était aussi entendue. Par exemple, une fois, elle était chez moi et elle s'est mise à faire des bons partout dans l'appartement pour couper l'écoute dont elle pensait faire l'objet. Et une autre fois, elle m'a expliqué qu'il fallait qu'elle aille chez le dentiste parce qu'elle pensait qu'elle avait une petite radio dans la dent. Le fait de raconter qu'elle avait une petite radio dans la dent, c'était pour elle une tentative de rationalisation de quelque chose qui lui était profondément incompréhensible. C'est-à-dire qu'entendre des voix, même quand on est fou, au fond, ça semble tellement bizarre qu'on cherche des explications logiques et rationnelles. Donc finalement, ce qui me semblait, moi, complètement délirant, était juste une tentative pour rendre le plus acceptable possible le fait qu'elle soit traversée par des voix très désagréables, qui étaient des voix d'insultes, des voix de haine. Bon. Et donc, ce qui me touchait dans cette histoire, c'était l'effort qu'elle faisait, au fond, pour essayer de construire une logique et de construire aussi une vérité. Alors évidemment, cette vérité, elle n'était orientée que vers une seule chose, qui était je suis sur écoute, et d'une part, et d'autre part, on me parle. Et donc, tout convergeait, tout se mettait à faire sens du même côté, vers l'insulte, vers la surveillance. Enfin, j'ai compris petit à petit que ce qui était déplaisant dans cette affaire, c'était le fait qu'elle ne tende que vers une seule vérité, qu'au fond, tout convergeait pour faire sens, pour faire un seul sens, n'était susceptible de recevoir qu'une seule interprétation, ce qui, si j'ai bien compris, est aussi le cas du roi d'Italo Calvino. Et puis ensuite, ma mère est morte, et moi je suis allée dans son appartement quelques semaines après pour ranger un peu, prendre des affaires. Et c'était un dimanche après-midi, j'étais avec mon compagnon et on avait mis un peu de musique pour rendre ça plus doux. Et tout d'un coup, une voix nous est parvenue de l'autre côté de la cloison du salon qui nous insultait. Et là encore, du coup, il y a eu un effet de vérité très troublant, c'est-à-dire qu'il y avait un effet de réel et de vérité. Elle avait bien quelqu'un de l'autre côté de chez elle qui, de fait, proférait des insanités parce que lui aussi était sans doute travaillé, enfin est toujours, je suppose, travaillé par son propre délire.
Ce n'est pas la peine de te boucher les oreilles avec les mains. Tu continueras à les entendre tout autant. Ne te fixe pas sur les bruits du palais si tu ne veux pas rester pris comme dans un piège.
Dans votre intérêt, ne cherchez pas à en savoir plus. Nous vous avons sur écoute.
Sors. Fuis. Prends la large.
Chers auditeurs, le grand spectacle de l'écoute est terminé. La voix intérieure du roi d'Italo Calvino s'est éteinte. Le micro est fermé. Vous pouvez sortir du fond de l'oreille du roi, rouvrir les yeux et retrouver votre propre univers sonore. Espion, taupe, agent secret, mouchard, sycophante, indique, barbouze, plombier, cafard, bonne nuit. Et gardez la radio allumée toute la nuit. C'est le meilleur moyen de déjouer le micro placé, peut-être, dans votre saxophone ou vos lunettes.
Bon, tu as été le témoin auriculaire de l'attentat, bravo.
Bravo à Peter Zandi, philosophe et musicologue, Georges Bagny, théoricien du théâtre, Marc Sommerer, juge d'instruction au tribunal de Paris, et Ariane Chautin, psychanalyste. Milena, Michel, Flore, Christelle, Judith Élise, chapeau bas. Et félicitations au roi, Vincent Schmitt, qui interprète des extraits d'Un roi à l'écoute d'Italo Calvino, issu du recueil Sous le soleil jaguar, traduit de l'italien par Jean-Paul Manganaro, et édité chez Folio Gallimard en 2013. Prise de son, Emmanuel Mordinquant, François Rivalan et Alain Joubert. Mixage, Manuel Couturier. Attaché de production, Inès De Bruyne et Alice Ramon. Coordination, Irène Omelianenko. Merci à Stéphane Catalano, Patrick Stroman et Yaël Mandelbaum.
Chut.
Les murs ont des oreilles. Un atelier d'Hélène Laurent et Manouchak Fachaï.